Érasme, colloque, la fille ennemie du mariage. Dialogue entre Eubule et Catherine. Eubule. Je suis bien aise que le repas soit enfin terminé pour jouir de la promenade dans cette allée délicieuse. Catherine. Moi aussi, j'étais lasse d'être assise. Quel beau printemps, comme la nature est riante. On le dirait dans toute sa jeunesse. Oui. Mais pourquoi votre printemps ne sourit-il pas aussi? Comment cela? Vous êtes un peu triste. N'ai-je pas mon air habituel? Voulez-vous que je vous montre votre portrait? Volontiers. Vous voyez cette rose dont les feuilles se resserrent à l'approche de la nuit? Je la vois ensuite. Et votre visage lui ressemble. Jolie comparaison. Mais si vous ne m'en croyez pas, regardez-vous dans ce bassin. Que signifient donc ces soupirs si fréquents que vous avez poussés pendant le repas? Cessez de me questionner sur une chose qui ne vous intéresse point. Elle m'intéresse beaucoup, au contraire, car je ne puis être gai qu'en vous voyant gai. Ah, voilà encore un soupir qui part du fond du cœur. J'ai quelque chose qui me tourmente, mais il ne serait pas prudent de le révéler. Vous ne me le direz pas à moi, qui vous aime plus que si vous étiez ma sœur? Chère Catherine, quel que soit votre secret, ne craignez rien, confiez-le sûrement à mes oreilles. En admettant que je vous le dise en toute sûreté, je crains de vous le dire inutilement, sans que vous puissiez me venir en aide. Qu'en savez-vous? À défaut de mieux, je vous aiderai peut-être de mes conseils, de mes consolations. Je ne puis parler. Mais pourquoi cela? Me haïssez-vous? Mais je vous hais tellement que mon frère m'est moins cher que vous, et pourtant, je n'ai pas envie de parler. L'avouerez-vous si je devine? Pourquoi hésiter? Les promettez-le-moi, sans quoi je ne cesserai pas de vous obséder. Eh bien, je vous le promets. Je ne vois pas de tout ce qui vous manque pour être parfaitement heureuse. Ah, plutôt au ciel que vous dissiez vrai. Premièrement, vous êtes dans toute la fleur de l'âge. Vous avez, si je me trompe, 17 ans. Oui. Par conséquent, j'imagine que la crainte de la vieillesse ne vous tourmente pas encore. Ah, parle-moi du monde. Votre personne ne laisse rien à désirer, c'est donc là un des dons précieux de la Providence. Mais quelle que soit la tournure de ma personne, je ne m'en loue ni ne m'en plains. Votre teint, votre embonpoint annoncent une santé florissante, à moins que vous n'ayez une maladie secrète. Rien de semblable, grâce à Dieu. Votre réputation est intacte. Je le crois. Votre esprit répond à votre personne. Il est des mieux doués et je serais heureux de pouvoir en appliquer un pareil à l'étude des belles lettres. Si cela est, c'est une faveur de la Providence. Votre caractère respire une amabilité qui fait souvent défaut aux beautés les plus parfaites. Oui, je souhaite que mon caractère soit toujours digne de moi. Le vice de la naissance est un écueil pour beaucoup de gens. Vous avez des parents bien nés, honnêtes, riches et pleins de tendresse pour vous. Sous ce rapport, je n'ai point à me plaindre. Bref, parmi toutes les jeunes filles de cette contrée, je ne choisirais pas d'autre épouse que vous, si mon étoile m'était propice. Et moi, je ne prendrais pas d'autre époux, si le mariage pouvait me tenter. Enfin, et qui vous tourmente ainsi, doit être quelque chose de grave, d'extrêmement grave. Vous ne vous fâcherez pas si je le devine? Je vous l'ai promis. J'ai appris par expérience combien l'amour est un rude tourment. Voyons, avouez-le. Avouez-le, puisque vous l'avez promis. L'amour est en cause, mais ce n'est pas celui que vous supposez. Mais quel amour entendez-vous? Devinez? En vérité, j'y perds toute ma divination. Néanmoins, je ne lâcherai pas cette main que je l'ai arrachée à la vérité. Mais comme vous êtes violent. Mais penchez dans mon cœur tout ce qui vous chagrine. Puisque vous êtes si puissant, je vais vous le dire. Dès l'âge le plus tendre, j'ai été prise d'une passion extraordinaire. Laquelle, je vous prie, je désirais entrer dans un couvent de religieuses. Ah, vous faire moinesse? Oui. Au lieu d'or, du charbon. Que dites-vous, Bulle? Rien, un charmant enfant. Je toussais. Continuez. Ce dessin que j'avais formé a toujours rencontré chez mes parents une résistance opiniâtre. J'entends. Prières, caresses, larmes, j'ai tout employé pour vaincre la tendresse de mes parents. Vous m'étonnez. À la fin, voyant que je ne cessais de prier, de conjurer, de supplier, de pleurer, ils me promirent que dès que j'aurais atteint 17 ans, ils accéderaient à mon désir, si toutefois je persévérais dans mes intentions. Et j'ai 17 ans. Ma volonté est la même et mes parents refusent obstinément, malgré leurs promesses. Voilà ce qui me désole. Je vous ai découvert mon mal, à vous maintenant, de faire le médecin, si vous connaissez un remède. Je vais d'abord vous donner un conseil, charmant enfant. C'est de modérer vos inclinations. Quand on ne peut pas ce que l'on veut, il faut vouloir ce que l'on peut. Mais je mourrai si je n'obtiens pas ce que je veux. Et d'où vous est venu ce fatal penchant? J'étais encore tout enfant lorsqu'un jour me mena dans un couvent de religieuses. On nous conduisit partout et on nous fit tout voir. Les visages radieux des religieuses me ravirent. On les eut prises pour des anges. La chapelle était resplendissante et embaumée. Les jardins soignés avec un goût exquis. En un mot, mes yeux ne rencontraient partout que des objets charmants. Ajoutez à cela les conversations si aimables des religieuses. J'en trouvais deux avec lesquelles j'avais joué dans mon enfance. Et depuis ce temps, mon cœur soupire après une pareille vie. Je ne veux point blâmer l'institution des religieuses, bien que tout ne convienne pas à tous. Mais, d'après la trempe de votre esprit, autant que j'en puis juger par votre air et par vos manières, je vous conseillerais de prendre un mari qui vous ressemble et de fonder dans votre maison une nouvelle communauté dont votre mari sera le père et vous la mère. Je mourrais plutôt que de renoncer aux vœux de virginité. La virginité est une belle chose lorsqu'elle est pure, mais il n'est pas nécessaire pour cela de vous mettre dans un couvent, d'où plus tard il vous sera impossible de vous arracher. Vous pouvez garder votre virginité chez vos parents. Oui, mais pas aussi sûrement. Bien plus sûrement, à mon avis, qu'auprès de ces gros moines toujours gorgés de mangeailles. S'il faut vous le dire, ce ne sont pas des eunuques. On les appelle pères, et ils font souvent en sorte que ce nom leur appartienne de droit. Autrefois, les vierges ne connaissaient pas d'asile plus honnête que le toit de leurs parents. Elles n'avaient d'autre père que l'évêque. Mais dites-moi, je vous prie, quel est le couvent que vous avez choisi de préférence pour y vivre dans l'esclavage? Chrysers. Ah, je sais, il est voisin de la maison de votre père. Précisément. Oh, je connais à fond toute cette confrérie. Elle vaut vraiment la peine que vous renonciez pour elle à votre père, à votre mère, à vos proches, à toute votre honorable famille. Le prieur est depuis longtemps abruti par l'âge, par la boisson. Par ses penchants, il n'aime plus que le vin. Il a deux confrères dignes de lui, Jean et Sonoc. Jean n'est peut-être pas méchant, mais il n'a rien d'un homme, excepté la barbe, par l'ombre de savoir et guère plus de jugement. Jodoc est si bête que, Sans le respect dû à son froc, on le promènerait par les rues en costume de fou, avec oreilles d'âne et grelots. Ils me paraissent de bonnes gens. Je les connais mieux que vous, chère Catherine. Ils plaident sans doute auprès de vos parents pour faire de vous leur prosélyte. Jodoc m'appuie chaudement. Oh, le bel avocat! Mais en admettant que vous ayez affaire aujourd'hui à des gens instruits et honnêtes, demain vous en rencontrerez d'autres, ignorants et vicieux, et quels qu'ils soient, il faudrait que vous les supportiez. Les fréquents dîners que se donnent chez mon père me scandalisent. Les gens mariés y tiennent des propos qui ne conviennent pas toujours à une vierge. Il arrive même quelquefois que je ne puis refuser un baiser. Mais qui veut éviter le scandale doit renoncer à vivre. Il faut habituer nos oreilles à tout entendre et à ne laisser pénétrer dans notre âme que de bonnes impressions. Vos parents vous ont accordé sans doute une chambre particulière. Oui. Et qui vous empêche d'y aller chaque fois que le repas devient un peu bruyant? Pendant que les convives boivent et rient, vous de votre côté, conversez avec le Christ, votre époux, priez, psalmodiez, louez Dieu. La maison paternelle ne vous souffrira pas et vous la rendrez plus pure. Mais toujours est-il qu'une communauté offre plus de garanties. Oh, je ne plains point une chaste communauté, mais je ne voudrais pas que vous puissiez tromper par de fausses apparences. Lorsque vous y aurez vécu quelque temps, que vous aurez examiné les choses de près, tout ne vous paraîtra peut-être pas aussi beau qu'autrefois. Toutes celles qui portent le voile, croyez-le bien, ne sont pas des vierges. Oh, les beaux propos, oh, d'autant plus beaux qu'ils sont vrais, à moins cependant que le titre que nous avons cru jusque-là appartenir en propre à la Vierge Mère ne s'étende à beaucoup d'autres, en sorte que, après l'enfantement, elle soit réputée vierge. Oh, quelle horreur! Sachez de plus que souvent, parmi ces vierges, tout n'est pas virginal. Vraiment, mais comment cela, je vous prie? Bon, il s'en trouve beaucoup qui imitent les mœurs de Sappho plutôt que son talent. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Mais si je vous parle ainsi, chère Catherine, c'est pour que vous ne le compreniez pas un jour. Quoi qu'il en soit, mon cœur se porte là. Et comme ce penchant dure depuis des années et que tous les jours il acquiert plus de force, j'en conclus que c'est un souffle de Dieu. Et moi, je me méfie d'autant plus de votre penchant que vos excellents parents s'y opposent. Dieu n'aurait-il pas aussi touché leur cœur si votre dessein était sage? C'est un goût qui vous a été suggéré par cet éclat dont vous avez été témoin dans votre enfance, par les conversations aimables des religieuses, par l'affection que vous portiez à d'anciennes compagnes, par le culte divin dont les cérémonies sont si imposantes, par les malignes exhortations de moines stupides qui ne vous pourchassent que pour mieux boire. Oh, ils savent votre père généreux et bon. Oui, ils l'inviteront à leur table, mais à la condition qu'il fournira une quantité de vin suffisante pour 10 grands buveurs, ou ils boiront chez lui. Je vous conseille donc de ne plus rien faire contre la volonté de vos parents, sous la dépendance desquels Dieu a voulu que nous fussions. Mais en pareil cas, la piété veut qu'on ne tienne compte ni de son père ni de sa mère. Quand il s'agit du Christ, il est des circonstances où la piété permet de négliger son père et sa mère. Cependant, si un chrétien avait pour père un parent, un païen sans moyen d'existence, il commettrait une impiété en abandonnant son père et en le laissant mourir de faim. Si vous n'aviez pas encore confessé le Christ dans le baptême et que vos parents vous empêchent d'être baptisés, ce serait agir pieusement que de préférer le Christ à des parents impies. Ou bien encore, si vos parents vous poussaient à une action impie ou immorale, vous auriez raison de braver leur autorité. Mais quel besoin avez-vous d'entrer au couvent? Le Christ n'est-il pas également chez vous? La nature ordonne, Dieu approuve, saint Paul recommande, les lois humaines prescrivent l'obéissance des enfants à leurs parents, et vous voulez vous soustraire à l'autorité de parents excellents, substituer à votre véritable père un père factice, à votre véritable mère une mère étrangère, disons mieux, remplacer vos parents par des maîtres et des maîtresses. La soumission où vous êtes vis-à-vis de vos parents n'ôte rien à votre liberté. Ainsi, les enfants de famille se nomment-ils nés de parents libres parce qu'ils échappent à la condition des esclaves? Et vous voulez échanger votre liberté contre la servitude. La charité chrétienne a détruit presque entièrement l'esclavage antique, sauf quelques vestiges qui subsistent encore dans certains pays. Mais sous le couvert de la religion, on a inventé un nouveau genre d'esclavage, celui de la vie monacale. Là, il vous faudra en toute chose obéir au règlement. Tous vos biens passeront à la communauté. Si vous allez quelque part, on vous ramènera en fugitive, tout comme si vous aviez empoisonné père et mère. Pour que la servitude soit plus évidente, on change les habits donnés par les parents, et à l'exemple de ceux qui autrefois vendaient les esclaves, on change le nom reçu au baptême, de sorte que Pierre et Jean s'appellent François, Dominique ou Thomas. Pierre a voué son nom au Christ, et s'il entre dans l'ordre de Saint-Dominique, on l'appelle Thomas. Qu'un militaire se défasse de l'uniforme qu'il a reçu de son maître, on dira qu'il renonce au service de ce maître. Et nous applaudissons à celui qui endosse un habit que le Christ, ce souverain maître, ne lui a pas donné. Et s'il vient à changer cet habit, on le punit plus sévèrement que s'il était dépouillé 100 fois de sa véritable livrée de son seigneur et maître, je veux dire la pureté de l'âme. Mais on dit pourtant que c'est un acte très méritoire que de s'engager volontairement dans cet esclavage. Doctrine de pharisiens! Saint Paul veut au contraire que l'homme libre ne se rende point esclave, mais qu'il fasse tout son possible pour garder sa liberté. Et cet esclavage est d'autant plus dur qu'il vous faudra obéir à beaucoup de maîtres, pour la plupart stupides, méchants, capricieux, et qui changeront d'un jour à l'autre, dites-moi. Les lois vous ont-elles soustraites à la tutelle de vos parents? Non. Avez-vous le droit de vendre ou d'acheter un fonds de terre sans le consentement de vos parents? Nullement. Et d'où nous vient donc le droit d'aliéner votre personne à je ne sais qui, malgré vos parents? N'êtes-vous pas leur plus cher, leur plus intime propriété? Mais quand il s'agit de la piété, les lois de la nature sont nulles. C'est surtout dans le baptême que l'on fait profession de piété. Ici, tout se borne à changer d'habit et à adopter un genre de vie qui en soi n'est ni bon ni mauvais. Considérez un peu tous les avantages que vous perdez avec la liberté. Maintenant, libre à vous de lire dans votre chambre, d'y prier, d'y psalmodier aussi longtemps et autant de fois que cela vous est agréable. Votre chambre vous déplaît-elle? Vous pouvez entendre les cantiques de l'Église, assister aux offices, écouter la parole sainte. Si vous connaissez une dame, une jeune fille vertueuse, leur conversation vous rendra meilleur. Un homme d'une honnêteté reconnue, vous gagnerez à le fréquenter. Vous pouvez choisir un prédicateur qui vous enseignera dans toute sa pureté la doctrine du Christ. Toutes ces choses qui sont la base essentielle de la vraie piété, vous la perdrez une fois entrée au couvent. Mais avec tout cela, je ne serai pas religieuse. Mais vous laisserez-vous donc toujours prendre à des mots? Voyez le fond des choses. Les moines vantent l'obéissance. N'aurez-vous pas tout le mérite en obéissant à vos parents, à qui Dieu vous ordonne d'obéir? En restant soumise à votre évêque, à votre pasteur? N'aurez-vous pas le bénéfice de la pauvreté, puisque tous vos biens seront entre les mains de vos parents, quoique anciennement un des plus beaux titres de gloire des vierges, au dire des saints, fut leur libéralité envers les pauvres. Or il est évident qu'elle n'aurait pu donner si elle n'avait rien possédé. Enfin, votre chasteté ne courra aucun risque sous le toit de vos parents. Mais où est donc la différence? Dans un voile, dans une chemise de lin, qui au lieu d'être sous les vêtements est mise par-dessus, dans quelques cérémonies qui en elles-mêmes ne signifient rien pour la piété, et qui ne recommande personne aux yeux du Christ, qui envisage la pureté de l'âme. Puisque vous êtes encore sous la tutelle de vos parents, que vous ne pouvez disposer ni d'une terre ni d'un vêtement, comment auriez-vous le droit de vous placer sous la servitude d'autrui? Mais l'autorité des parents, dit-on, n'empêche pas d'entrer en religion. Au baptême, n'avez-vous pas fait profession de religion? Oui. Et la religion ne consiste-t-elle pas à suivre les préceptes du Christ? Certainement. Et quelle est donc cette religion nouvelle qui méconnaît ce que la loi naturelle a établi, ce que la loi ancienne a voulu, ce que la loi évangélique a approuvé, ce que la doctrine apostolique a ratifié? C'est un décret qui n'émane pas de Dieu, mais qui a été forgé dans un conciliabule de moines. Il y en a même qui prétendent que le mariage est valide lorsqu'à l'insu et contre le gré de leurs parents, un garçon ou une jeune fille déclarent par devant témoins, c'est leur mot, qu'ils se marient. Principe que désavoue le sens commun, la loi ancienne, Moïse lui-même, l'Évangile et les apôtres. Mais croyez-vous donc qu'il me soit défendu d'épouser le Christ sans le consentement de mes parents? Je vous le répète, vous êtes déjà unis au Christ. Nous y sommes tous unis. Prend-on deux fois le même époux? Tout le reste est une question de lieu, d'habit, de cérémonial. Faut-il donc pour cela désobéir à vos parents? D'ailleurs, prenez garde, en croyant épouser le Christ, de ne pas en épouser d'autres. Ils affirment pourtant qu'il n'y a rien de plus beau que de désobéir en cette circonstance à ses parents. Oh, demandez donc à ces grands docteurs qu'ils vous montrent un seul passage des livres saints qui disent cela. S'ils ne peuvent pas, faites-leur boire une bouteille de vin de Beaune, ils ne seront pas embarrassés. Quitter pour le Christ les parents impies, c'est faire acte de piété. Mais renoncer à des parents dévots pour embrasser le monachisme, c'est-à-dire, car l'expérience ne le prouve que trop, fuir l'honnête pour ce qui ne l'est pas, est-ce que je vous le demande, un acte pieux? Même autrefois, un païen converti au christianisme devait le respect à ses parents idolâtres en tout ce qui ne compromettrait pas la piété. Vous condamnez donc entièrement cette profession? Nullement, non, mais de même que je ne voudrais pas conseiller à quelqu'un qui s'est jeté dans ce genre de vie de s'efforcer d'en sortir, j'engage volontiers toutes les jeunes filles, et principalement celles qui annoncent un bon naturel, à ne pas se lancer étourdiment dans un guépier dont elles ne pourront plus se dépêtrer. J'insiste d'autant plus qu'au fond des couvents, la virginité court souvent de grands risques, et que tous les avantages qu'il présente, on peut se les procurer chez soi. Vos arguments, j'en conviens, sont forts et nombreux. Néanmoins, ils ne sauraient détruire mon inclination. Puisque, malgré tout mon désir, je ne puis vous persuader, du moins rappelez-vous un jour que mon avis était sage. En attendant, je souhaite, par affection pour vous, que votre inclination soit plus heureuse que ne l'ont été mes conseils.